Née en 2003 sur le territoire des Hauts-de-France, l'association Signes de Sens a pour objectif et ambition de rendre accessibles les apprentissages, l'information et la culture aux personnes en situation de handicap, qu'ils soient cognitifs, sensoriels ou psychiques. Je suis allée à la rencontre de l'un de ses membres actifs. Il nous présente son association, ses actions et ses souhaits pour les années à venir.
Je suis Sébastien Cellier. Je suis directeur du développement de Signes de Sens, donc ça veut dire que dans l'association, je gère à la fois la communication, les partenariats, et puis également la recherche de financement pour pouvoir créer et puis alimenter en fait le développement de nos projets.
Justement, on va en parler de tous ces projets de votre association, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots le but et comment a été créée votre association Signes de Sens ?
Oui, alors Signes de Sens fêtera bientôt ses 20 ans, puisqu'on est né en fait en 2003. Et au départ, l'association a été créée surtout autour de la médiation culturelle pour les personnes sourdes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'époque, en fait, on organisait des parcours de visite dans les musées en langue des signes pour rendre accessibles en fait les musées aux personnes sourdes. On travaillait également à l'écriture de pièces de théâtre bilingues français, langue des signes française, pour permettre finalement à des personnes sourdes et des personnes entendantes d'aller voir le même spectacle et donc de vivre la même émotion au même moment. Cette activité existe toujours, mais on a, depuis 20 ans maintenant, étoffé en fait nos actions. On est aujourd'hui 26-27 dans l'équipe, et donc on travaille sur vraiment la conception d'outils, de services, d'outils pédagogiques qui facilitent l'accès à l'information, en fait, de manière générale, pour les personnes qui ont un handicap cognitif, sensoriel ou psychique. Personnes sourdes, personnes avec déficience intellectuelle, porteuses d'autisme. Donc voilà, notre métier consiste vraiment à partir de ces problématiques d'accessibilité pour créer des outils qui vont faciliter la compréhension de l'information et finalement faciliter la navigation dans ce monde parfois un peu complexe.
Vous évoluez sur des domaines qui peuvent être complémentaires les uns avec les autres, sur 6 champs d'action. La culture, la lecture, l'éducation, le médico-social, mais pas que. Vous pouvez nous en parler un petit peu et concrètement, comment ça se met en place justement ?
Alors, Signes de Sens, par rapport à notre métier, on a 2 grands modes d'intervention. On a des programmes d'action qu'on porte en propre. On est une structure associative, hein, association de loi 1901. Et ces programmes d'action, en fait, on va, pour les mettre en œuvre, s'associer à des partenaires terrain et à des partenaires financeurs. Quand je dis partenaire terrain, ça veut dire qu'on est très connecté chez Signes de Sens avec des réseaux de médiathèques, avec des réseaux également de musées, mais également avec des structures du médico-social. Et avec toutes ces structures, on va identifier des problématiques. Au-delà aussi de nos programmes d'action, on est amené à intervenir en prestation pour des structures médico-sociales qu'on va accompagner sur tel ou tel sujet dans leur transition inclusive. On fait également de la formation. On fait également de la production de documents accessibles, des vidéos sous-titrées en langue des signes française, de la production de documents papier accessibles, de la conception de sites web également accessibles, tout ce qui va vraiment être problématique d'information. Voilà notre métier en fait.
Vous êtes parti également d'un constat, il y a de cela quelques années, en 2017-2018, vous avez mis, je vais dire, en lumière un petit dysfonctionnement, si on peut appeler ça comme ça, et vous avez créé des ateliers par rapport à ça pour pallier justement à ces manques-là. Vous pouvez nous en parler ?
Alors, effectivement, en 2017-2018, on a organisé sur la grande région de France des ateliers participatifs, donc une dizaine d'ateliers participatifs qui ont réuni plus de 200 personnes, donc à la fois des professionnels des bibliothèques, bibliothécaires et médiathécaires, des éducateurs spécialisés issus du médico-social et des ados en situation de handicap. Et durant ces 10 ateliers, la question posée, c'était très simple, hein, comment créer ensemble une médiathèque qui soit accessible ? Une médiathèque notamment dans laquelle je vais trouver des livres qui correspondent à mon besoin de lecture. Et donc ces 10 ateliers ont eu lieu, donc, comme vous le disiez, en 2017-2018. On a sorti suite à ça un livre blanc, une synthèse en fait de tout ce qui a été dit et identifié. Et rapidement, on s'est rendu compte que l'offre de livres, en fait, elle existe, puisque nous avons nous-mêmes recensé plus de 850 titres qui existent, hein, donc tous ces livres adaptés, c'est-à-dire des livres textes illustrés pour les enfants qui ont une déficience visuelle, ou bien des livres en braille, des livres DVD avec des histoires animées pour commencer à interagir avec un enfant sourd, des livres avec des polices de caractère qui vont s'adapter aux enfants qui ont une dyslexie, des livres également en lecture syllabique, des livres en facile à lire avec deux niveaux de lecture, l'histoire originale et puis l'histoire écrite en facile à lire, ce qui va permettre à l'enfant qui a une difficulté d'entrer d'abord par le côté facile et après, selon sa progression, de pouvoir aller vers un niveau un peu plus complexe. Donc tous ces livres existent, mais en fait ne sont pas proposés en médiathèque parce que les professionnels du livre et de la lecture ne connaissent pas l'offre, ont une certaine appréhension à accueillir des publics en situation de handicap. Et donc le résultat, c'est que les familles ne trouvent pas de livres pour leurs enfants. Alors que la lecture est un droit fondamental. La lecture conditionne une vie entière, puisque savoir lire, c'est pouvoir aller à l'école, c'est pouvoir se former, c'est pouvoir également se former à un métier et c'est pouvoir après trouver un emploi. Donc on s'est saisi de cette problématique-là et on a créé un programme d'action qui s'appelle EJA, Édition Jeunesse Accessible. Et ce programme repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est d'accompagner et de former les médiathécaires. Quels sont les types de livres, quel type de livre pour quel type de besoin de lecture. Donc vraiment appréhender l'ensemble de cette collection. Accompagner après les bibliothèques et les médiathèques à la structuration d'un espace, que ce soit dans des rayonnages classiques ou bien que ce soit à travers un dispositif dédié pour lui donner de la visibilité dans la médiathèque. Et puis après, troisième pilier, pouvoir ancrer le dispositif localement avec des opérations de communication auprès des familles, auprès des assos de parents, auprès des écoles et auprès des établissements médico-sociaux. Le but étant de se faire rencontrer l'offre et la demande et de toucher les familles et de leurs enfants. L'ambition, c'est sur toute la France, hein, puisque le programme se déploie sur toute la France, mais il est très ancré, il a été conçu ici en région Hauts-de-France, c'est que les familles n'aient pas plus de 30 minutes à faire sur le territoire pour trouver en médiathèque des livres pour leurs enfants. Donc là, on a équipé plus de 40 médiathèques sur l'ensemble de la France, essentiellement des médiathèques départementales, et on a autant une quarantaine qui sont en cours d'équipement. La médiathèque départementale du Nord a été l'un des premiers partenaires, comme la médiathèque départementale de l'Oise également. On travaille avec l'Aisne. La bibliothèque Jean Lévy à Lille est équipée avec un fonds édition jeunesse accessible. On a fait également un travail là, très récemment avec l'association Libre comme Lire, le collège Lavoisier à Lambersart.
Ça n'a pas été trop compliqué justement de mettre en place tout ça, de faire ces partenariats-là avec toutes ces structures?
Ça n'a pas été compliqué dans le sens où on y est allé étape par étape. C'est-à-dire qu'on a commencé d'abord à créer des prototypes du dispositif. On a testé en fait la démarche, notamment avec la médiathèque départementale de l'Oise. L'équipe était très investie en fait sur le sujet et pour ne pas aller trop vite, on a créé voilà, et on a testé. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a énormément de médiathèques qui sont volontaires et qui veulent y aller. Ça prend parfois le temps que ça doit prendre, le temps que ça se mette en place à l'échelle de la médiathèque, le temps que les validations se fassent en interne. Il y a comme ça des délais en fait qui doivent être respectés. Mais en tout cas, à partir du moment où c'est mis à disposition, on a de très bons retours d'usage. Parce que les médiathèques trouvent, les publics en fait, qui viennent en médiathèque trouvent des livres et les médiathécaires sont ravis d'avoir des solutions à proposer. Il n'y a rien de pire finalement que de se retrouver face à un papa, une maman qui vient chercher des livres en fait pour son enfant qui est porteur d'autisme par exemple et qui a besoin d'avoir des livres en pictogramme. Il n'y a pas de réponse à donner. Et là, en fait, généralement, ça fait tilt de ne pas avoir de réponse à donner. Et donc, l'investissement après se met en place, quoi.
Cette année, vous vous êtes vu décerner un prix. Vous pouvez nous en parler justement de ça? Qu'est-ce que ça vous apporte en plus d'avoir eu ce prix-là justement? Une reconnaissance, une satisfaction, un avancement supplémentaire dans vos démarches?
Alors effectivement, pour nous, les prix sont importants. Je vais prendre par exemple Signe de Sens est associé au sein de l'Alliance pour la lecture, qui est une alliance nationale de près d'une centaine d'associations qui œuvrent pour l'accès à la lecture. Et donc, on a été habilité en fait, hein, estampillé Grande Cause Nationale 2022, donc ce qui permet d'accélérer en fait le déploiement de ce programme d'action Édition Jeunesse Accessible. Et le prix de la Fondation Crédit Coopératif va dans ce sens-là aussi, parce que d'une part c'est un soutien financier au programme, puisque c'est une dotation de 4000 euros, donc ça se prend et c'est plutôt le bienvenu pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait. Et puis c'est également pour nous assez déterminant et capital, parce que c'est de la notoriété, c'est-à-dire que le Crédit Coopératif, de par ses réseaux, en termes de communication, a une puissance entre guillemets d'action que nous n'avons pas, signe de sens, à l'échelle de notre association, même si on a beaucoup de partenaires. Donc pour nous, en fait, cette reconnaissance est à la fois des fonds et une accélération de la notoriété, faire connaître ce qu'on fait. Et là-dessus, le Crédit Coopératif joue bien le jeu, puisqu'il y a eu une communication qui a été faite sur les réseaux sociaux, mais également par voie de presse. Et ça, c'est très, très important, en fait.
Qu'est-ce que vous attendez, que vous souhaiteriez dans les années à venir, justement, pour l'association Signes de Sens et pour toutes ces personnes porteuses d'indices?
Ce qu'on souhaite, nous, vraiment, c'est faire changer le regard, en fait, sur le handicap. Il y a beaucoup d'acteurs, en fait, qui sont sur ce champ-là. Quand je dis faire changer le regard sur le handicap, c'est vraiment montrer que le handicap et la diversité sont des sources d'innovation, en fait, et de progrès pour tout le monde. Quand on crée des solutions avec des personnes en situation de handicap, c'est tout le monde qui en profite. Il y a plein d'exemples comme ça, qu'on utilise tous au quotidien, d'objets du quotidien, dont on ne sait pas, connaît pas l'histoire, et on ne sait pas que ces solutions sont nées parce qu'à un moment donné, on s'est intéressé aux personnes en situation de handicap. C'est le cas, par exemple, du SMS dans les téléphones. On utilise tous le SMS, mais le SMS est né parce qu'à un moment donné, autour de la table, on a mis des personnes sourdes qui, à l'époque, utilisaient beaucoup le fax. Et quand le téléphone portable est né et que le fax a progressivement disparu, le SMS est né pour permettre à ces personnes de s'envoyer des petits messages. Et maintenant, on l'utilise tous. C'est le cas aussi de la télécommande sur le téléviseur, qui est né au départ pour des personnes à mobilité réduite. Donc voilà, le handicap, la diversité sont une richesse pour le monde. Donc ça, c'est vraiment des changements qu'on souhaite vraiment insuffler. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est que l'État s'engage pour vraiment transformer également les choses et faire en sorte que la société soit de plus en plus inclusive et accessible. Ça doit aussi être le cas dans les entreprises, dans les collectivités, dans les organisations. Cette transition inclusive, elle ne s'opérera que si tout le monde s'y met. Et donc tout le monde doit aller dans cette voie-là. Il y a eu beaucoup de progrès de fait, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais les choses sont en route.
Parce que le handicap est aussi porteur de créativité et d'innovation, depuis près de 20 ans, l'association Signes de Sens apporte des solutions concrètes face à certaines problématiques rencontrées par les personnes porteuses d'un dysfonctionnement. Accessibilité, innovation, inclusion, diversité sont des mots vecteurs pour évoluer, transformer et agir ensemble pour le monde de demain. Pour plus d'informations sur les actions portées par cette association, je vous redirige vers le site signesdesens.org. Un sujet réalisé par Mélanie Berthe pour RPL Radio.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.